On va prendre un petit coup de froid aujourd'hui. Été après été, dans l'Arctique, la banquise recule. En 2016, elle a atteint l'une de ses plus petites surfaces historiques, avec à peine plus de 4 millions de kilomètres carrés, à tel point que les chercheurs envisagent d'ici 2030 la fonte totale de la banquise nord en été. Au sud, la calotte glaciaire de l'Antarctique s'amincit et les glaciers fondent, menaçant eux de faire grimper le niveau des océans de plusieurs centimètres et de perturber considérablement le climat. Réchauffement climatique, les pôles sont-ils en danger? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre avec nos invités dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette débâcle des pôles, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ici autour de la table Jean-Louis Etienne. Bonjour.
Bonjour.
Infatigable explorateur polaire depuis maintenant 30 ans. Vous venez de publier « Inventer sa vie », c'est aux éditions du Passeur. Nous sommes également avec Emmanuel Sultan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes océanographe au Muséum d'Histoire Naturelle. Vos travaux portent principalement sur l'océan austral, où vous avez passé plus de 500 jours en mer, hein, sur un total de 15 campagnes, si j'ai bien compté, c'est ça?
C'est ça.
Bon. Alors pour commencer, je le disais en présentation, hein, dès qu'on s'intéresse au pôle, vous l'avez entendu, il est difficile de ne pas sombrer dans une certaine forme d'alarmisme. Ce sont des zones fragiles, des zones sensibles où le réchauffement climatique fait des dégâts plus importants et peut-être même plus visibles qu'ailleurs. Alors vous qui connaissez bien l'un et l'autre ces territoires, est-ce que depuis que vous les arpentez, vous avez constaté dans vos voyages, dans vos expéditions, un changement visible, un changement notable, Emmanuel Sultan?
Alors moi j'ai rencontré un changement notable entre la base du mont Durville et le glacier du Mertz. Donc c'est une distance à peu près de 250 km, c'est pas une très grande vaste, c'est pas une vaste région, mais des changements notables liés à l'englacement qui a été modifié pour une cause qui a priori n'était pas initialement due au changement climatique, puisque c'est un glacier qui pousse avec un certain rythme.
Dans l'Antarctique donc.
Dans l'Antarctique, oui, pardon, il faut que je précise que c'est
on,
au niveau
on
de l'Antarctique.
On fera la différence tout à l'heure, on fera une petite révision de géographique.
Voilà, et donc du coup c'est simplement, ça illustre bien des phénomènes d'interaction qui peuvent survenir, qui s'ajoutent à des variations naturelles et des changements de vent, des changements qui sont liés à au système qui évolue, climatique j'entends, vient se surajouter et vient peut-être
accélérer
ou modifier la situation.
Jean-Louis Etienne, ça va faire 30 ans, ça fait 30 ans cette année que vous êtes parti dans votre expédition qui vous a conduit au pôle Nord. Vous y étiez il n'y a pas très longtemps, vous y êtes retourné il n'y a pas longtemps.
Oui, je reviens de temps en temps, pas au pôle Nord, mais sur l'Arctique.
Dans l'Arctique, vous constatez très nettement une évolution, une dégradation?
Alors, ce que l'on constate, alors bien sûr, si on y va à la fin de l'été, la surface de la banquise diminue, ça c'est les satellites montrent ces images. Mais ce que je peux constater, moi, sur le terrain, c'est que, bon, le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé, recouvert par une couche de glace qu'on appelle la banquise, qui fait 1,50 m, 2 m d'épaisseur moyenne. Elle diminue. En 86, quand j'y étais, elle faisait 1,80 m d'épaisseur moyenne. Aujourd'hui, on pense qu'elle fait 1,50 m. Alors, cette plaque de glace qui recouvre cet océan, elle bouge sans arrêt, elle est animée par des courants, par des vents.
La glace est vivante, disent les gens qui sont partis au
Nord. La glace est vivante, elle se fracture, donc tout d'un coup, vous avez de l'eau libre, l'océan qui apparaît, vous voyez là l'eau, puis ça bouge. À notre endroit, les plaques, elles entrent en collision, il y a une véritable tectonique des plaques de glace. Et donc, quand ces plaques entrent en collision, ça fait ce qu'on appelle des crêtes de compression. Ça érige des murs de blocs de glace. Et j'en ai parlé avec des amis qui fréquentent régulièrement. J'ai eu le sentiment, et on m'a confirmé, c'est une réalité, que ces crêtes de compression, c'est-à-dire ces murs de glace qui sont formés par le conflit entre deux plaques de glace, sont beaucoup moins hauts qu'avant. Et c'est vrai. Donc tout ça pour dire que l'épaisseur de glace au nord, la banquise, diminue considérablement. Et pour rebondir ce que disait Emmanuel, moi, ce que j'ai constaté au sud, constaté par satellite, mais j'ai traversé l'Antarctique, et donc on a fait, depuis le bout de la péninsule jusqu'à l'autre côté, les 600 premiers kilomètres qui étaient le Larsen Ice Shelf, la plateforme de glace, les 600 premiers kilomètres ont disparu. Donc on ne pourrait plus refaire l'intégralité de la traversée qu'on a faite. Il y a des choses visibles.
Oui, Emmanuel Sultan.
Oui, justement, il y a aussi une différence entre ce qu'on appelle l'Est Antarctique et l'Ouest Antarctique. Donc au niveau de la péninsule Antarctique, extrêmement proche, c'est le bout de la cordillère des Andes.
Et qui donc, est à l'inverse de la banquise arctique, qui est un continent. Donc il y a de la terre et de la roche en dessous, précisons-le.
C'est un continent englacé, là où en Arctique c'est un océan gelé. Et donc c'est un continent glacé entouré d'un océan annulaire, donc qui n'est interrompu par aucune terre, qui crée du coup un système de courant très particulier.
Très fort, les 50e hurlants, les 50e, hein, redoutés 40e, par les marins.
Voilà. Et donc y a cette distinction entre l'Est Antarctique et l'Ouest Antarctique. Et il y a aussi une modification qui a été constatée, alors plus dans le cœur océanique, c'est au niveau de la salinité, et qui est liée aussi à la formation de la banquise, on a constaté une épaisseur de la couche d'eau du fond qui est très salée et très froide, qui s'est amoindrie au cours des dernières décennies. Donc c'est ce qu'on traque un peu quand on est océanographe et qu'on vient plonger nos instruments jusqu'au fond, jusqu'au plancher océanique et surveiller cette masse d'eau profonde. Et c'est celle qui m'a conduite sur site pendant presque 20 ans.
Alors on reparlera des différences entre l'impact, les conséquences du réchauffement climatique sur le pôle nord et sur le pôle sud qui ne réagissent pas, on le verra tout à l'heure, tout à fait de la même façon. Mais avant cela, nous sommes allés, nous aussi, avec notre équipe de reporters, à la rencontre d'autres explorateurs des pôles qui reviennent tout juste grâce à Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine.
Bonjour Nicolas, bonjour.
Vous avez rencontré des explorateurs du Groenland.
Exactement, j'ai rencontré Evrard van den Boom, qui est un géologue de formation qui a lancé avec son association Nature Évolution une série d'expéditions scientifiques sous le nom de Lost Worlds. Le principe est simple, il s'agit de partir à la découverte de quelques-uns des derniers mondes perdus, des régions du globe qui sont souvent encore inexplorées. Et le but de ces expéditions, c'est pas seulement de partir à l'aventure, c'est aussi et surtout de découvrir avec des chercheurs la biodiversité de ces enclaves et de mettre en place des programmes de protection du patrimoine écologique observé.
Et cet été donc, ces explorateurs des mondes perdus se sont rendus dans l'Arctique.
Exactement, ils ont mené une expédition de 2 mois, entre juillet et août, dans le Scoresby Sound, une région encore méconnue située sur la côte est du Groenland. Il faut savoir que le Scoresby Sound abrite le plus grand système de fjords au monde et se trouve au sud du parc national du Rhineland, qui est lui-même le plus grand parc national du monde, mais qui ne fait pas partie de ce parc. Evrard van den Boom m'a donc raconté comment s'est passée cette expédition dans cette région du Grand Nord qui change à très grande vitesse. On l'écoute.
On a été sur 3 zones, on va dire 3 milieux complètement différents. On a posé un premier camp de base sur la toundra, une zone au nord du fjord qui s'appelle le Jameson Land, qui est la plus grande zone de toundra de cette côte est. Donc il faut imaginer des paysages assez immenses, avec des collinettes un peu comme ça, énormément de lacs, des centaines de lacs, des petites rivières, etc. Et de la toundra, c'est-à-dire une végétation rase, des forêts mais minuscules, minuscules, sur des très grandes étendues mais avec des arbres qui font 20 ou 30 cm de haut. Et puis énormément d'oiseaux, énormément d'oiseaux migrateurs notamment. Et donc dans cette région-là, on a fait tout un tas d'études sur les densités de population des bœufs musqués, les densités de population d'oiseaux justement, notamment de ces oiseaux migrateurs. Ensuite, on s'est déplacé sur une zone très montagneuse. Alors là, faut imaginer, on pourrait complètement s'imaginer au cœur de l'Himalaya, des parois gigantesques de 1500 mètres de haut qui tombent sur des glaciers énormes qui charrient des tonnes et des tonnes de glace, qui font pas loin de 40 à 50 km de long ces glaciers, et ils déversent une quantité de glace astronomique parce qu'au-dessus il y a une calotte glaciaire évidemment. Et on est allé faire là-bas un certain nombre d'études sur la mécanique des glaciers et sur le lien qu'il pourrait y avoir entre la quantité d'eau qui fond en surface et la vitesse de déplacement du glacier. Voilà, ensuite on est allé découvrir, du coup, en allant dans ces zones-là, on est allé découvrir un certain nombre de vallées qui n'avaient jamais été explorées pour faire des premiers relevés, pour faire des premières observations. On va certainement retourner là-bas parce qu'il y a des sortes d'anomalies au niveau du fonctionnement d'un glacier. Bref, pareil, c'est un peu compliqué à expliquer à la radio. Ensuite, on s'est déplacé en dernier lieu vers la partie plus littorale, une partie plus aquatique, on va dire. Et là, l'objectif était de... Un des objectifs, c'était de placer un hydrophone dans différents environnements littoraux, voilà, et d'en faire une sorte d'inventaire acoustique. Et c'était assez intéressant parce que ça nous a là encore obligé à concevoir des outils assez sympas pour descendre sous l'eau, pour fixer les hydrophones, pour que ça marche. Comment on fait pour enregistrer le son d'un iceberg qui bouge tout le temps puisqu'il est flottant, donc il se déplace. Voilà, il y a eu plein de petits enjeux comme ça qui étaient intéressants. Et en l'occurrence, le plongeur donc nous a aidé à aller placer ce truc jusqu'à 25, 30 mètres, 40 mètres de profondeur. Et le dernier aspect pour lequel on était venu, c'était qu'on voulait essayer de préciser la densité de population des narvals. C'est un animal symbolique, emblématique, c'est une merveille de la nature, le narval, avec sa longue dent, là, cette espèce de licorne des mers. Mais voilà, c'est pas pour rien qu'on en sait peu, c'est qu'il est extrêmement difficile à voir. Et bah, nous, on en a fait l'expérience, malheureusement, on n'a rien vu du tout. On a parcouru le fjord en long, en large et en travers avec nos kayaks. C'est bon, ça fait partie des choses qu'on teste, qu'on tente et qui parfois ne marchent pas. C'est ça aussi qui est bien avec des expéditions comme celle-là, c'est qu'on part avec plein d'objectifs, il y en a un certain nombre qui ont réussi, puis il y en a qui ont réussi pas. Ça nous oblige à repartir là-bas, c'est ça qui est bien. Parmi les difficultés qu'on rencontre quand on veut faire ce genre d'expédition, il y a la première, c'est de trouver les fonds. Clairement, c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on est sur place, ce qui est difficile, c'est évidemment la logistique parce qu'on se retrouve dans des endroits difficiles d'accès. Il faut arriver à trouver les moyens d'accès, soit en bateau, soit en hélicoptère, soit... voilà. Notre éthique à nous pousse à vouloir utiliser le moins possible de carbone, on va dire. Donc on limite l'usage des moteurs, etc. Ce qui est un... Nous, on en est fiers, mais ça complique énormément les choses, évidemment. Si on voulait aller plus vite, on prendrait un hélicoptère, ça nous ferait gagner des jours d'efforts. Mais au final, ce qui nous a peut-être le plus épuisé, c'est clairement les portages. Parce qu'à un moment donné, quand il faut remonter à 1000 mètres d'altitude avec sur 35 km à travers des glaciers, des moraines, donc c'est des gros blocs de granit qui ne se tiennent pas les uns sur les autres. Quand il faut parcourir tout ça avec des sacs à dos monstrueux, le faire 4 ou 5 fois de suite parce qu'il faut porter pour 15 jours ou 3 semaines de nourriture et de matériel et tout ça. Et puis quand on a réussi... On est bien fiers en fait, il y a vraiment quelque chose. Alors d'une part il y a une sorte de fierté, et puis d'autre part il y a tout ce temps de marche. C'est un temps où tu peux réfléchir, un temps d'introspection, un temps d'écoute, parce que du coup t'as tes sens qui sont ouverts quoi. Et tout le monde a énormément apprécié. On est sorti épuisé, le dos rincé, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de plus qu'on a perçu là-bas grâce à ça. Allez, je dirais qu'un des souvenirs qui m'a bien marqué, c'est très probablement le fait d'être allé plonger dans un moulin. Alors les moulins, c'est ces espèces de puits de glace, ces puits bleus profonds. Voilà. Alors déjà, rien que de descendre dans un puits de glace comme ça, au plein milieu d'un glacier, ça a quelque chose d'envoûtant. Nous, on a choisi en plus de descendre dans des moulins actifs, c'est-à-dire dans lesquels l'eau se jette en permanence. Donc c'est un petit peu comme si vous descendiez dans une grotte avec une cascade d'eau gigantesque en permanence, sauf que la grotte est bleue et extrêmement lumineuse et tout. Et puis, parfois, au fond de ces moulins, on n'est pas directement au sol. C'est-à-dire que l'eau, elle creuse un puits vertical, mais elle ne touche pas le fond du glacier. Et on arrive sur des paliers. Et ces paliers, ils font comme des lacs, finalement, ou des étangs, sous la glace. Donc on est au cœur du glacier, on l'entend vibrer, on l'entend se casser, on l'entend... Et je peux vous dire que quand vous êtes accroché avec vos piolets, vos crampons sur la glace, et que tout à coup, elle se met à vibrer, ou en tout cas il y a un claquement énorme qui apparaît, c'est une espèce d'envoûtement et alors là au fond on trouve ces lacs, et nous on a plongé, enfin on a voulu plonger dans un de ces lacs sous glaciaire, donc, ou intra-glaciaire, on peut même appeler ça comme ça. Donc on est entouré complètement de glace, dessus, dessous, à droite, à gauche, partout. L'eau est à 0, 1, 2 degrés maximum. Ça brasse énormément parce qu'il y a la cascade qui tombe dedans. Évidemment, l'eau qui tombe dans cette vasque, si je puis dire, elle s'échappe quelque part aussi. Et donc, on nage là-dedans, on plonge, on descend, mais on ne sait pas où va y avoir une aspiration, etc. C'est féerique. C'est d'une beauté absolument indicible. Donc voilà, ça, c'était un moment très fort par le stress que ça nous a procuré, entre guillemets, l'adrénaline, par la beauté, et par cette espèce de sérénité finalement qui se crée. Et voilà, tout est mesuré, tout est calme, tout est... Moi, ça m'a marqué.
Voilà l'exploration, l'expédition d'Erwan Vandenboom de Lost World. Vous pouvez la retrouver sur son site lost-world.org. On mettra le lien, bien sûr, sur le site de la méthode scientifique sur France Culture. Quand vous entendez ces récits d'exploration, Jean-Louis Etienne, Emmanuel Sultan, ça vous rappelle les vôtres propres? Emmanuel Sultan, je voulais prendre des notes.
Oui, je prends des notes parce que je me rends compte à quel point l'expérience peut être similaire, bien que moi je n'ai pas vécu au plus près de la glace en marchant longtemps, etc. Parce que je suis océanographe, donc je suis attachée à un bateau. Mmh. Et donc il y a d'autres contreparties où c'est au contraire une certaine promiscuité, le bruit, les odeurs d'un bateau, parce que c'est pas un bateau à voile. Moi, j'utilise beaucoup utilisé l'Astrolabe, qui est le bateau ravitailleur pour la Terra Deli. Mais il y a cette sensation, ce sentiment océanique, en fait, hein, de perte de rien en vue. Il y a aussi le côté, j'entendais ce temps d'introspection, parce que quand on va sur le terrain en Terra Deli, il faut un certain temps avant d'y arriver, il faut bien entre 5 et 7 jours. Il y a le temps d'une introspection. Et puis, il y a cette notion de frustration. On part avec un plan qu'on met en place depuis plusieurs années. Et une fois qu'on est sur le terrain, c'est pas toujours le cas. On ne réalise pas tout, loin de là.
Jean-Louis Etienne, vous partagez cette analyse-là, l'introspection, la déception et en même temps cet univers blanc qui vous dépasse et qui vous rend l'individu tout minuscule.
Oui, il a souligné les difficultés de monter les expéditions polaires. Il faut trouver des financements et puis la logistique, parce que la logistique est compliquée. Et donc, il est dans une phase de logistique qui est celle sur laquelle on compte le plus quand on est jeune, c'est-à-dire ses forces physiques. Et donc faire des grands portages très longs, avec des marches qui vous amènent à rêver. C'est ce qui arrive effectivement dans ces grands déplacements. Il n'y a aucune référence à l'humain, ce sont des déserts. Et donc ce sont des moments choyés pour vivre avec soi. Il y a une déshabituation du monde quand on fréquente ces régions. Et c'est ce qui en fait sa richesse personnelle, quoi, le temps qu'on passe à ça. Et puis ce sont des paysages féeriques, c'est extrêmement sobre. Il y a une stimulation sensorielle très pauvre. C'est pas monochrome, mais c'est le blanc, le bleu, le gris. Et petit à petit, à force d'être immergé là-dedans, on apprend à lire les nuances, toute une richesse qu'il nous décrit. Non, on avait le sentiment qu'il revenait lui-même au centre de la Terre, qu'il revivait, qu'il émergeait de la naissance de la Terre. Son récit est intéressant.
Alors, on va parler de ces zones-là, mais peut-être de façon un peu plus inquiétante maintenant, puisque, comme on le disait tout à l'heure, le réchauffement climatique a un effet divers sur ces deux zones, le pôle Nord ou le pôle Sud. Et vous le disiez tout à l'heure hors micro, Emmanuel Sultan, il faut redire, peut-être effectivement réviser un petit cours de géographie, puisque le pôle Nord et le pôle Sud, c'est effectivement pas la même chose. On l'a dit tout à l'heure, le pôle Nord, c'est un océan de glace, le pôle Sud, c'est un continent entouré d'un océan, l'océan Austral, qui est le plus grand océan du monde, certainement aussi peut-être le plus sauvage. Vous allez nous dire tout à l'heure ce que vous en pensez. Par ailleurs, ce sont deux zones où la biodiversité est très très différente. Qui veut répondre à ça, sur la biodiversité entre le pôle Nord et le pôle Sud, Jean-Louis Etienne?
En Antarctique, donc au sud, l'Antarctique est un immense continent grand comme 28 fois la France et recouvre le tout de 2500 mètres d'épaisseur moyenne de glace. 2 km à 3 km d'épaisseur moyenne, c'est absolument un glaçon géant. Rien ne vit. C'est un désert absolu. La vie, elle est autour. C'est une vie maritime. Donc, vous avez des oiseaux de mer, vous avez des mammifères marins. Et donc, la vie se déploie tout autour. Et paradoxalement, vous avez ces animaux qui viennent là pour se reproduire en bordure du continent et qui repartent s'alimenter en mer.
Là où au nord, il y a donc un continuum entre la terre et la glace, ce qui n'est pas du tout le cas du sud, et où on trouve des centaines d'espèces de plantes à fleurs, d'oiseaux, d'espèces animales à terre.
Parce qu'il y a effectivement tout autour de l'océan Arctique, là effectivement il y a des terres, et là vous retrouvez effectivement à la fois une faune, des végétales et une faune de terre à ce moment-là.
Emmanuel Sultan ?
Oui, je voudrais juste moduler qu'il y a quand même un continuum aussi en Antarctique. Et c'est-à-dire que ce sont des organismes de petite taille qu'on va trouver. Ça va être des lichens, des cyanobactéries, des choses comme ça.
Des mousses,
voilà. Mais aussi des choses qu'on recherche. Par exemple, il était cité dans le reportage les lacs sous-glaciaires, sous le carottage des grands forages épicas, entre autres, qui ont permis de retrouver retracer l'historique de notre climat sur un million d'années, il y a des lacs partout sous la calotte glaciaire et rechercher s'il y a des bactéries. Donc là, c'est un champ de recherche à part entière et très très nouveau, enfin qui n'est pas... Enfin, que je ne maîtrise pas du tout, donc je pourrais pas vous en dire plus.
Ce sont des lacs d'eau douce, en revanche.
Oui, mais donc du coup, toutes ces zones-là. Donc après, pareil, à l'est antarctique où il y a des études, beaucoup de biologistes qui sont en Antarctique et qui travaillent sur ces sujets-là. Et le foisonnement, évidemment, la rupture par rapport au foisonnement qui existe au niveau marin, où là, la biodiversité est vraiment beaucoup plus importante. Les couleurs aussi, puisque quand on est à terre, on a donc des teintes
très neutres.
On apprend à distinguer, effectivement, on apprend à distinguer des nuances subtiles. Quand on est sous la mer, on est là, on a des couleurs qu'on ne trouve pas du tout.
Comme par exemple
le vert, le bleu, les rouges. Voilà. Le rouge sur la glace.
C'est là que sous glaciaire, c'est très intéressant. Ils sont à 2000, 3000 mètres de profondeur.
Des réserves d'eau gigantesques, immenses.
Oui, mais surtout on se dit, mais elles sont là depuis combien de temps? Et peut-être on va trouver là, effectivement, ce qu'Emmanuel disait, des bactéries très anciennes, on ne sait pas. La difficulté, c'est, on fait un carottage, on fait un trou pour descendre, si vous voulez, mais à un moment donné, quand on rentre dans cette eau-là, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut y accéder sans la polluer? Et c'est une vraie question technologique qui dure depuis des 20-25 ans, où on s'interroge comment est-ce qu'on peut y aller sans perturber ce milieu qui est là depuis, je sais pas, peut-être des millions d'années, on ne sait pas.
Qui a été préservé. Et puis il y a une autre différence majeure, c'est que l'Antarctique, contrairement à l'Arctique, est une zone internationale protégée.
Oui, alors là, ça vient aussi du fait, quand on regarde la map monde, eh bien, on voit bien donc le continent antarctique est entouré d'un océan, alors que l'Arctique est entouré de pays.
De terre.
Et donc, du coup, il y a une revendication territoriale possible en Arctique qui n'existe pas en Antarctique. Donc, c'est un pays où il n'y a pas d'autochtones, il n'y a jamais eu de... Enfin, jamais. Je me méfie, étant scientifique, des jamais. On n'a pas connaissance, en tout cas, de peuplement humain autochtone en Antarctique. Et il y a eu, au cours du siècle dernier, la mise en place du traité de l'Antarctique pour protéger et organiser ce qui s'y passe. Qui pour l'instant, l'Antarctique est soumis au traité de l'Antarctique.
Qui interdit donc toute forme d'exploitation commerciale militaire.
D'extraction et militaire, oui. Et puis, alors le commerce, il y a un bémol, puisqu'il y a une activité de tourisme, qui émerge. Mais en tout cas, il n'y a pas d'exploitation de ressources en Antarctique, la pêche comprise.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Alors, on va regarder donc individuellement la situation de l'Arctique et de l'Antarctique par rapport justement au réchauffement et aux conséquences du réchauffement climatique. Commençons par l'Arctique, si vous le voulez bien. Je le disais dans la présentation de cette émission, compte tenu de la réduction année après année de la surface de la banquise en été, certains scientifiques estiment que d'ici à l'été 2030, la banquise pourrait fondre totalement en été. Vous y croyez, Jean-Louis Etienne? 2030, ça vous paraît un horizon raisonnable ou c'est trop tôt?
C'est possible, mais il faut quand même expliquer tout de suite que la banquise disparaîtra à la fin de l'été, c'est-à-dire vers le mois de septembre.
Mi-septembre, oui, à peu près.
Mais elle revient dès qu'arrive l'hiver, donc 10 mois sur 12, l'océan est gelé. Donc c'est pas une disparition totale, et heureusement, mais ce qui disparaît, c'est la banquise pluriannuelle, celle qui perdurait d'une année à l'autre et qui avait ce matelas de glace qui restait là en permanence. Là, aujourd'hui, il y a une libération de zones d'eau libre. Et ces zones d'eau libre, ça devient des capteurs, alors que le blanc réfléchit la lumière. Ça s'assombrit, à la fois sur les terres, parce que la neige arrive plus tard, elle repart plus tôt. Et sur l'océan, c'est pareil. Et donc, tous les corps foncés, noirs, captent le rayonnement solaire. Et ça provoque un phénomène d'emballement, effectivement. Et à certains endroits, l'Arctique, donc le nord, il y a des réchauffements qui sont entre 2 et 3 degrés depuis qu'on le mesure, depuis 70 ans à peu près.
On sait pourquoi le nord est plus sensible au réchauffement climatique que le reste de la planète?
Le nord est un océan, effectivement, qui est entouré de terre. si vous voulez. Donc c'est un corps vivant, un corps noir qui maintient une certaine température. L'Antarctique, c'est un immense continent complètement isolé par cet océan.
L'Arctique, c'est le plus petit océan du monde. C'est l'océan Australe est le plus grand, l'Arctique est le plus petit.
Et donc, en Antarctique, il y a cette couronne océanique qui isole totalement l'océan. Et puis, vous avez une altitude. C'est le continent le plus haut du monde, en moyenne. Et c'est que de la glace, quoi. Hein.
2300 mètres, je crois, de moyenne d'altitude en Antarctique. C'est ce qui est très, très haut.
Au pôle sud, au cœur de l'été, il fait moins 20, moins 25, moins 28, vous voyez. Donc, c'est une immense calotte de glace. Donc ça reste froid.
Ce qu'il faut préciser, c'est que si la banquise fond de plus en plus et même fond totalement à l'été 2030, comme le prédisent certains chercheurs, ça n'a pas d'influence en revanche sur le niveau des océans, Emmanuel Sultan.
Oui, ça c'est important.
Il faut le dire, parce que c'est très différent avec l'Antarctique.
Alors, en fait, c'est le mécanisme physique qui est derrière, c'est-à-dire que la banquise, c'est de la partie océanique qui est gelée. Donc ça reste c'est de l'océan gelé, on va dire.
C'est le principe d'Archimède, hein, c'est-à-dire que ça, la poussée océanique à peu près, non ?
Là, ça c'est plus pour les icebergs.
Oui.
Donc c'est-à-dire que quand la banquise fond, eh bien, on retrouve un état liquide de l'océan. On n'a pas rajouté de matière, c'est ça surtout qui est important à avoir en tête. Si l'Antarctique fond, justement, comme c'est sur de la masse continentale, ce n'est pas de la banquise dont on parle, c'est la calotte glaciaire. Donc là, c'est du glacier. Et là, on amène une masse d'eau douce, donc sous forme glacée, qui va fondre au niveau océanique. Donc on rajoute de la matière. C'est pour ça que l'enjeu est primordial et que la calotte du Groenland a le même effet en Arctique. Donc si jamais la calotte...
Puisqu'il y a une calotte glaciaire au Groenland
voilà,
également.
Voilà, c'est juste que le morceau de terre sur lequel est cette masse d'eau, cette masse d'eau douce en glacée est beaucoup plus important en Arctique qu'en Antarctique.
Qu'en Arctique. Et la calotte glaciaire, par ailleurs, de l'Antarctique donne directement dans la mer, ce qui n'est pas le cas, je crois, de la calotte du Groenland, qui est entourée de terre.
Oui, alors là, je pense qu'en hiver, là, je ne suis pas assez experte là-dessus pour vous dire.
Le Groenland est une chaîne de montagnes qui fait un berceau, en fait, qui est plein de glace. Et par endroits, bien sûr, les glaciers se déversent et descendent vers la mer. Mais ce que vous voulez dire, les plateformes océaniques de glace ne sont pas aussi importantes. Il y en a des toutes petites.
Alors, les chiffres par rapport à la surface moyenne de la banquise sur une période de 40 ans sont assez implacables. Hein, quand on les regarde, la banquise rétrécit et on va en avoir la preuve grâce à une archive de notre partenaire, le CNRS Images. C'est un extrait du film Alerte au pôle, l'adieu à la banquise. Le film date de 2007. Vous allez y entendre le constat que dresse une océanographe, Marie-Noëlle Housset.
Alors si la question du futur de la banquise arctique intéresse tant de gens, c'est bien parce que déjà depuis de nombreuses années, on s'aperçoit que cette banquise arctique diminue. Et notamment sur les 25 dernières années, on voit une tendance générale à la diminution de l'étendue des glaces arctiques de l'ordre de, ça dépend sur quelle période, mais disons sur les 25 dernières années, de l'ordre de 5% par décennie. Et puis, cette tendance est accélérée, et si maintenant on calcule la tendance sur entre les années 70 et le milieu des années 2000, vers 2005, on obtient une tendance qui double avec une diminution de l'ordre de 8% par décennie. Et puis en parallèle, on voit que l'épaisseur de la banquise arctique est un paramètre très important, puisque ça donne à peu près la résistance de cette réserve de froid qu'est la banquise. Et bien l'épaisseur de la banquise arctique aussi, apparemment, est en train de diminuer. Et ça, on s'en est convaincu vers la fin des années 90, lorsque la marine américaine a rendu public des données de sous-marins. Et lorsqu'on a comparé ces données de sous-marins avec des données antérieures des années 70, on a vu qu'en certains endroits, l'épaisseur de la banquise avait diminué de l'ordre de 40%. 40%, c'est énorme, ça veut dire qu'on passe dans certains endroits de 3 mètres à 1,6 mètres, ce qui est en gros quelque chose qui n'était absolument pas anticipé avant qu'on ait ces données.
Voilà ce qui recoupe ce que Jean-Louis et Étienne nous disaient tout à l'heure. Hein. Vous pouvez retrouver cette vidéo en intégralité sur le site de la méthode scientifique. Et je précise que la vidéo embarquée de la semaine de notre partenaire, le CNRS Images, concerne également les pôles, puisque cette vidéo est continent blanc, qui date, elle, de 1959. Vous pouvez donc retrouver sur franceculture.fr. On entend tout ça. On a dit que la fonte de la banquise arctique n'avait pas d'influence directe sur l'augmentation du niveau des océans. En revanche, ça a une influence sur l'océan et sur la vie des océans elles-mêmes, Jean-Louis Etienne.
Ça a une influence sur le climat.
Sur le climat.
Elle vient de dire à l'instant la masse froide. On a besoin de ces masses froides au nord et au sud pour contrebalancer la chaleur tropicale permanente qu'il y a sous les tropiques, qui fait chaud tout le temps, été comme hiver. Et la Terre, qui va toujours dans le sens de l'équilibre, a besoin de cette masse froide pour équilibrer cet accès de chaleur tropicale. Et la Terre, elle a deux fluides pour évacuer cette intensité de chaleur tropicale et l'échanger avec les régions plus froides. C'est les courants atmosphériques. On va dire grossièrement, c'est ce qui conditionne la météo. Ce sont des mouvements assez rapides. Et puis, les courants océaniques qui sont beaucoup plus pérennes. Et un des exemples que tout le monde connaît, c'est Gulf Stream qui évacue la chaleur de la Caraïbe vers le nord avec ses branches ascendantes. Donc on a besoin de ce froid, et pour être imagé, on a ouvert la porte du frigo. C'est-à-dire on est en train de perdre du froid, si vous voulez, en Arctique.
Est-ce que ça veut dire que l'Arctique est en train de se transformer en un milieu tempéré ?
Oh, pas tant. Non, parce qu'il y a quand même une grosse partie de l'année où il fera froid, si vous voulez. Il y a la nuit polaire qui est longue, donc il y aura toujours de la banquise qui va se faire et il fera toujours froid. Enfin, j'imagine pas qu'on verra, que l'humain verra un jour cette région devenir chaude, si vous voulez.
Devenir tempérée. Néanmoins, comme le disait Jean-Louis Etienne tout à l'heure, Emmanuel Sultan, moins de banquise, ça veut dire que l'océan Arctique va absorber plus de lumière et donc plus de chaleur. Ça a des conséquences sur le milieu océanique, des conséquences à long terme.
Ça a des conséquences et ça a déjà été vécu de mémoire d'homme. Hein. Il y a eu des courants. En fait, ça modifie les courants, les différents courants. Donc, Jean-Louis Etienne a parlé du Gulf Stream, mais on parle aussi du courant du Labrador, donc qui est directement impacté, et le courant du Labrador, donc qui vient lui en fait se diriger vers le sud, apporter du froid justement vers le sud, et qui vient rejoindre le Gulf Stream et le modifier dans sa circulation aussi. Donc, suivant l'affaiblissement ou non de ce courant du Labrador, eh bien, le Gulf Stream remontera plus vers le nord ou sera dévié vers l'est, en l'occurrence vers nos eaux européennes. Donc ça, c'est un changement important, le conditionnement de ces courants.
Et le changement de ces courants chauds et froids, ça peut avoir quel type de conséquences au niveau atmosphérique et au niveau de l'équilibre du climat, par exemple dans l'hémisphère nord? Est-ce qu'on en a une idée, Emmanuel Sultan?
Eh bien, ça vient moduler les signaux réguliers du climat. Donc en fait, c'est une interaction, ce qu'on appelle l'interaction océan-atmosphère. Et effectivement, il y a le système de courants ascendants qui vient prélever la chaleur, lié à la chaleur au niveau de l'équateur, qui va se retrouver dans la haute atmosphère et puis retomber au niveau des régions tempérées. Et puis il y a les cellules polaires qui inversement vont circuler dans l'autre sens pour moduler le froid du nord. Et donc forcément ils sont en contact avec la masse océanique, et donc il y a une modulation qui se fait de ces différents courant. Et donc il y a ce qu'on appelle la circulation nord-atlantique, qui est un régime, une oscillation naturelle des systèmes atmosphériques, qui peut être modulée par la masse océanique et inversement.
Est-ce que ça veut dire, comme j'ai pu le lire, qu'il faut se préparer à plus de désordres climatiques, que ces modifications de courants et maritimes et atmosphériques vont conduire à des épisodes climatiques un peu plus extrêmes partout dans l'hémisphère nord?
Ce qui se passe, c'est qu'il y a plus d'énergie dans le système.
Donc le système est plus instable.
Donc comme il y a plus d'énergie, bah, du coup, il peut y avoir plus d'événements extrêmes plus violents.
Il y a une autre conséquence, qui est une conséquence toute simple. Hein, plus de lumière dans l'eau, ça veut dire plus de végétation, notamment plus de phytoplancton. Donc ça modifie aussi l'équilibre de tout l'écosystème, qui est, on l'a dit au début, un écosystème assez fragile, Jean-Olivier Etienne, l'écosystème océanique de l'Arctique.
Oui, pour rester simple, il y a un des symboles de l'Arctique qui est l'ours polaire. Et c'est une image qui illustre bien ce qui se passe, c'est que l'ours a besoin de la banquise pour chasser. Il mange à 80% du phoque, et à la nage, il n'attrapera jamais un phoque, l'ours. Donc il a besoin de l'attendre sur une plateforme stable, et il l'attend là, sur la banquise, là où le phoque vient respirer. Et donc effectivement, il y a une fragilisation aujourd'hui de la banquise, régression. Donc c'est autant de surface de chasse en moins, et surtout, comme le froid, la mer gèle plus tard, la neige arrive plus tard, les zones où l'ours va construire sa tanière pour mettre bas, eh ben, il y a des zones où ils s'en vont. ils ne restent plus là parce qu'effectivement, elles ne sont plus joignables. Donc, il y a une perturbation. Ça, c'est la plus spectaculaire, ce que les gens connaissent bien. Mais ce que disait Emmanuel, c'est une, il y a une charge thermique de la Terre importante, si vous voulez. Et ça, et le mot réchauffement climatique, c'est une valeur scientifique, c'est pas une valeur populaire. Ça ne se perçoit pas, si c'est que vous voyez 0,8 degrés d'un siècle, c'est pas un, on peut pas dire tiens, ça s'est réchauffé un petit peu. Non, par contre, ça altère effectivement le climat et tout ce que vous soulignez, les tempêtes tropicales qui deviennent des cyclones, davantage de sécheresses, des inondations beaucoup plus importantes, les tempêtes tropicales qui deviennent des cyclones, c'est une espèce de bombe thermique qui se forme à la Caraïbe, enfin pour parler de ce secteur que nous connaissons, parce que les alizés poussent de plus en plus d'eau chaude qui s'accumule dans le secteur, et c'est de, quand c'est assez épais, ça explose, si vous voulez. C'est vraiment une charge thermique colossale.
Je me retourne vers l'océanographe Emmanuel Sultan. L'augmentation de cette population de phytoplancton dans un océan, quel type d'effet en chaîne ça peut avoir du fait justement de la diminution de la banquise et de l'augmentation de l'ensoleillement de l'océan, en fait?
Ouais, c'est le premier niveau de la chaîne alimentaire. Ça vient perturber l'équilibre de la chaîne alimentaire. Ça peut aussi favoriser certaines espèces plus que d'autres. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a toujours un petit peu une rétroaction. Ça peut aussi, par sa prolifération, à nouveau assombrir, puisque il y aura moins la lumière pourra moins pénétrer parce qu'il y aura trop de matière organique finalement. Donc ça peut aussi modifier la composition même de l'eau de mer et peut-être son acidité, mais là c'est pas trop mon domaine, mais c'est le premier niveau de la chaîne alimentaire. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ils sont visibles depuis les satellites, enfin les blooms phytoplanctoniques, on peut les observer par satellite, et ils permettent du coup de façon indirecte de tracer les courants marins, puisque ce sont des organismes qui ne se déplacent pas, ils sont soumis au courant, et c'est une façon aussi de pouvoir tracer la circulation de surface, et c'est un pont très intéressant entre les physiciens et les biologistes par l'observation de ces blooms phytoplanctoniques.
Et puis il y a autre chose, et je me retourne à nouveau vers Jean-Louis Etienne, on a vu ces photographies assez impressionnantes de ce qu'on appelle la glace sale, c'est-à-dire des clichés avec des traces rouges notamment ou brunes. Vous en avez vu lors de vos derniers voyages?
Oui, ce sont des algues qui poussent. Mais pour parler du réchauffement des eaux, vous avez des migrations vers le nord de poissons qui montent. On dit qu'il va y avoir des sardines bientôt au large du Groenland, si vous voulez. Il y a des balistes que l'on trouve. Enfin, on voit qu'il y a des migrations vers le nord de nouveaux poissons. Par exemple, il y a une île, si vous voulez, sur le fleuve du Saint-Laurent, la mouchure du Saint-Laurent, où il y a beaucoup de fous. Là, ce sont des fous de bassin qui mangent du maquereau bleu. Bon, le maquereau bleu, maintenant, il trouve que les eaux qui y arrivent sont un peu chaudes. Donc, il plonge un petit peu pour aller dans des eaux plus froides, ou alors il remonte vers le nord, vers le Labrador. Et du coup, le maquereau bleu n'est plus accessible pour le fou. Et le problème, c'est que cette île est en train de souffrir parce que ça se réchauffe et il a plus accès au maquereau bleu. Voilà un exemple sur la faune, si vous voulez, du réchauffement.
Et un dernier mot sur l'Arctique, parce que on a examiné un peu donc ces conséquences directes du réchauffement climatique sur les milieux océaniques, sur les écosystèmes. La diminution de la banquise, ça peut avoir d'autres conséquences. Est-ce que ce sont des conséquences positives ou négatives? Mais c'est que ça ouvre des accès, ça ouvre des passages qui étaient fermés jusqu'à présent. Est-ce que c'est une bonne chose que ces passages-là, on pense par exemple au passage du Nord-Ouest, on a retrouvé il n'y a pas très longtemps l'épave du HMS Terror, qui était une grande expédition de relier l'Atlantique par le Pacifique, l'expédition Franklin. Mais est-ce que c'est une bonne chose que finalement on puisse avoir accès à ces zones-là, à ces zones de navigation qui étaient fermées jusqu'à présent, Jean-Louis Etienne ?
Il faut arrêter de penser que ça va devenir des voies navigables commerciales, parce qu'elles seront ouvertes un mois et demi, deux mois par an, et il n'y a aucun armateur qui va construire des navires à double coque avec des équipages formés glace. Et en ce qui concerne le passage du nord-ouest, c'est-à-dire au nord du Canada, il y a une grande partie qui est libre, mais ça, il y a un verrou compliqué, si vous voulez, où il faut un brise-glace certaines années. Donc on ne voit mal comment l'activité commerciale de la navigation pourrait se développer. Il y a deux gagnants pour le moment de cette régression de la banquise, c'est effectivement le tourisme. Le Nord-Ouest est un passage qui se vend bien, ça n'a jamais été fait. Maintenant, de plus en plus, ça se vend.
Une première croisière de luxe l'été dernier.
Et les pêcheurs. Les pêcheurs qui ont accès à des surfaces d'eau libre beaucoup plus importantes. Ça, ce sont les deux gagnants de la régression de la banquise. Et puis aussi, on a entendu, si la banquise disparaît, on va pouvoir exploiter les richesses sous-marines. Pas du tout.
On parle des hydrocarbures beaucoup. Hein. La,
oui,
Russie, la Russie vient de lancer l'exploitation d'un gisement le plus septentrional de son histoire. Donc, c'est que ça commence. Ça veut dire qu'il va y avoir une course à l'or noir.
Il y a Stockman, ils ont un réservoir de gaz qui est énorme, le deuxième après celui du Qatar, au large de Mourmansk. Donc, il y a eu des mouvements qui ont été faits dans les années, il y a 7-8 ans, quand le pétrole était à 120, 130 dollars, par exemple, le baril. Là, il y a eu des mouvements et les Russes n'ont pas la technologie pour le faire. Donc, ils s'étaient associés avec Statoil et Total pour faire ça. Dès que le prix est du baril est descendu en dessous de 80, 60, 50, tout ça s'est arrêté. Donc, c'est pas le fait que la banquise disparaît qu'on va aller exploiter. C'est quand le baril sera stable à 100 dollars qui justifie les investissements qui sont faits.
Mais ça va finir par arriver à un moment donné.
On voit mal les Russes s'asseoir sur cette réserve-là avec les risques environnementaux colossaux que ça représente.
If you're traveling in the North Country Fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling wind. Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long, for that's the way I remember her best.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day.
The Girl from the North Country, du prix Nobel de littérature, Bob Dylan. Il paraît que ça s'écoute beaucoup, Bob Dylan, dans les expéditions antarctiques, vous me disiez, Emmanuel Sultan.
Ben oui, en fait, c'est un lieu international et finalement, ça fait partie de la culture collective. Donc, c'est un... Effectivement, on l'entend beaucoup.
Les joueurs de guitare, hein.
Et oui.
Il y a beaucoup de joueurs de guitare qui viennent à leur guitare et pour faire... Oui. Donc, on chante tous Bob Dylan.
Jean-Louis Etienne, vous êtes sensible aussi à Bob Dylan, vous l'expliquez.
Oui. Dans j'ai ressorti, c'est amusant, j'ai ressorti il y a une semaine là, un disque de Bob Dylan que je n'arrête pas de me passer, certaines chansons. Et j'étais extrêmement surpris de voir qu'il était prix Nobel de la paix, mais en fait, quand on commence à creuser...
De littérature,
qu'est-ce que j'ai dit ?
De la paix.
C'est pas mal aussi.
Il était un peu sur le chemin, on va dire. Mais ces textes sont intéressants. Ah ouais. Et ils sont contemporains, ils ont été faits il y a 40 ans. Attends, mais c'est extrêmement contemporain toujours.
Il est 16h, bientôt 45, on va poursuivre notre discussion avec vous Jean-Louis Etienne. Vous venez de publier Inventer sa vie aux éditions du Passeur avec Emmanuel Sultan qui est donc océanographe au Muséum d'Histoire Naturelle. Notre discussion sur les pôles après le Nord, donc cap au Sud, et la situation, on l'a dit déjà un peu, diffère énormément. Déjà parce que l'Antarctique est une zone protégée, on en a parlé. Finalement, je me posais la question en préparant cette émission, pourquoi est-ce qu'on ne protège pas l'Arctique ? Pourquoi est-ce qu'on ne sanctuarise pas les pôles une bonne fois pour toutes, Emmanuel Sultan ?
Ça c'est une très bonne question, et les mêmes questions, on parle aussi du troisième pôle. Le troisième pôle qui représente en fait toutes les montagnes, tous les glaciers montagneux et notamment le plateau tibétain. L'enjeu, c'est tout simplement les différents pays. C'est-à-dire que ça a été tenté pour l'Arctique. Peut-être que Jean-Louis-Étienne en saura mieux plus que moi, mais en tout cas, ça a été tenté, mais il y a une vraie difficulté liée à la diplomatie internationale.
Et puis on a
c'est-à-dire
dit beaucoup
que ces terres
de...
sont attribuées.
Ces terres sont attribuées, et puis beaucoup de ressources en hydrocarbures, ce qui ne facilite pas à en faire une zone internationale sanctuarisée.
Non, ça pourra. Ça pourra jamais arriver, parce que le droit international de la mer, donc il y a la branche des 12 nautiques, les premiers 20 kilomètres, on va dire, ce sont ce qu'on appelle les eaux territoriales, et ensuite, la zone économique exclusive jusqu'à 200 000 nautiques au large, 350 km au large, si vous voulez. Et ça, c'est les pays sont souverains, donc ils font ce qu'ils veulent avec la masse d'eau, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la colonne d'eau, les poissons, la pêche, etc. Et le sous-sol aussi. Donc ce sont des réserves, comme vous le disiez, en hydrocarbures importantes. Et donc il faut espérer que peut-être on aura trouvé d'autres solutions pour éviter d'avoir à exploiter ces régions qui sont très fragiles.
Alors, on a fait tout à l'heure un bilan, un tour d'horizon, il faut dire, pas très encourageant, assez alarmiste de la situation en Arctique. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que l'Antarctique, ça va plutôt mieux ou ça va pas si mal, Emmanuel Sultan ?
Moi, je ne le dirais pas en ces termes, de ça va bien ou ça va pas bien. Je pense que là, on a vraiment une opportunité avec ces recherches qui ont été menées beaucoup en climatour. En tout cas, moi, c'est ce que je prends de ce travail que j'ai fait sur l'impact du changement climatique. C'est que ça nous donne l'opportunité de voir notre monde d'une autre façon. Et que au-delà de c'est bien, c'est mal, c'est que ça a mis en évidence une fragilité de notre façon de vivre et de voir, d'exploiter notre monde. Et puis, c'est des vrais défis, du coup, dans ces zones très extrêmes. C'est des défis, à l'heure actuelle, en tout cas en Antarctique, pour faire nos recherches, on est soumis au tout pétrole. Donc, les modifications. Donc, il y a un vrai défi technologique aussi pour
vous
pouvoir...
Vous êtes soumis au tout pétrole, c'est-à-dire que les navires fonctionnent...
C'est-à-dire que on a besoin de transporter, comme disait, on l'a entendu dans le documentaire, on a besoin de transporter, de forer, donc on a besoin d'énergie colossale.
Et tout ça, c'est avec de l'essence, du kérosène, du pétrole.
Qui est importé et qui est amené à terre. Alors historiquement, il faut savoir qu'il y a une période où on a même pensé à des moteurs nucléaires. Donc évidemment, ça s'est vite...
Comme sur certains brise-glaces.
Voilà, donc ça a été arrêté. Mais il y a un vrai enjeu technologique. Et ça peut être une terre d'innovation aussi. Donc il faut laisser... c'est débrider un peu la créativité... Pour c'est ce que je voulais.
Eh bien, on va en parler justement de la créativité, puisque il y a un projet qui est en cours, qui est votre projet, Jean-Louis Étienne, qui s'appelle PolarPod. C'est un projet un peu fou. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce projet qui, lui, fonctionnerait absolument sans essence?
Il est un peu fou, fait par des gens très raisonnables. Et c'est en fait le défi, c'est comment séjourner sur l'océan. Austral, cet océan qui entoure l'Antarctique, là on est au pôle sud, on est parti au pôle sud, tout autour de ce continent de glace, il y a cet océan, l'océan Austral, et les marins du Vendée Globe nous rappellent tous les 4 ans que ça s'appelle les 40e hurlants, 50e rugissants, donc c'est une région très ventée, difficile d'accès, parce qu'elle est loin, pas parce qu'il y a des tempêtes, les océanographes, ils montent sur les bateaux, ils connaissent les tempêtes, c'est pas ça qui les rebute, le problème c'est loin, c'est coûteux, il n'y a pas beaucoup de missions dans le secteur, et toutes les publications sur cet océan Austral, Emmanuel, elles se terminent, on a besoin de mesurer in situ, malgré les satellites, les animaux instrumentés, les profilers, tout ça, on a quand même besoin de l'homme sur place, c'était ça le défi, quel type de bateau on peut inventer, on peut créer pour séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et donc c'est un tube qui a 80 mètres de profondeur. Et à 80 mètres de profondeur, on est pris dans des eaux beaucoup plus stables. Quand le vent souffle, il soulève des vagues. Et plus il souffle, plus il va charrier profond. Et à un moment donné, on arrive dans des eaux stables. Et c'est ça le principe.
Donc c'est une espèce... Alors décrivez-nous un peu à quoi ça ressemble. C'est une espèce de grand tube, effectivement.
Voilà, on va dire un tube, il y a 75 ou 80 mètres sous l'eau. Et on habite à 15 mètres au-dessus de l'eau, dans une cahute.
Qui est lestée par le
gras. Il est lesté par 150 tonnes au fond. L'ensemble fait 1000 tonnes à peu près, ça fait 100 mètres, c'est long, quoi. Vous voyez, c'est un grand bateau, c'est un gros navire. Et on a fait des essais avec des avec une maquette. On a fait des essais au bassin des carènes de Brest, de l'Ifremer à Brest, à l'école centrale de Nantes. On crée des vagues. On crée des vagues dans une piscine et on regarde comment ça se comporte. C'est d'une grande stabilité. Donc c'est un navire sur lequel on aura... Je dis un navire parce que c'est un vrai navire. Il est inscrit maritime, pavillon français. Et donc il y aura 3 marins de marine marchande d'abord, 3 professionnels. Et il y aura 4 ingénieurs ou techniciens ou scientifiques qui seront là pour utiliser cette plateforme en mettant des instruments de toutes sortes. Donc ils seront là pour faire tourner tous ces instruments. Ça va s'apparenter un peu à la station spatiale qui est bardée d'instruments avec quelques personnes qui les font marcher.
La station australe.
Oui, et station océanographique internationale. Il y a plusieurs pays. Et on envoie les données à terre aux chercheurs.
Qu'est-ce qui peut nous apprendre encore cet océan austral, Emmanuel Sultan ? Il y a, dans l'actualité récente, la création tout juste là, de 2 sanctuaires marins à l'est et sur la mer de Ross. La mer de Ross, on appelle ça le dernier océan, puisque c'est le dernier écosystème qui serait intact de la planète. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, ces écosystèmes ?
Ouais, énormément de choses. Déjà, en termes de biodiversité, on n'a pas du tout... fait le tour de toute la biodiversité qui existe. Il y a les interactions aussi qui sont très très intéressantes entre la glace de mer, l'océan, toutes ces interactions là. Et il y a des processus certainement plus fins aussi. Et puis il y a tout ce à quoi on ne pense pas et que on va trouver
découvrir
sans les chercher.
Et puis il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement lié malgré tout au réchauffement, l'interaction entre les grandes quantités d'eau douce, le vélage, on appelle ça d'iceberg d'eau douce, qui vient se mélanger, qui vient perturber la composition de cet océan austral, qui vient un peu le désaliniser au long cours en quelque sorte.
Oui, c'est exactement ça. Donc effectivement, le vélage, ça veut dire la naissance d'un iceberg. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'assister quasiment à un dans ma carrière, et avec ses conséquences majeures. Parce que la première conséquence, c'est qu'il change le trait de côte. Il faut imaginer, pour certains, c'est comme si on enfin celui que je connais, c'était comme si on enlevait le Cotentin de la France. Donc vous pensez bien que la circulation est très très modifiée et que l'impact est majeur à la fois sur les courants marins, mais aussi sur la biodiversité, sur l'écosystème. Tout l'écosystème est impacté.
Sur l'acidité de l'océan à proximité.
Alors l'acidité, pas forcément ça directement. Ça c'est plus l'absorption du CO2 qui module l'acidité. Mais en tout cas, ça vient changer les zones de nourrissage pour les manchots, du coup succès reproducteur catastrophique, et ainsi de suite, et donc toute la chaîne alimentaire après ça suit. Et ça vient aussi changer de façon majeure les usages de ravitaillement de la base du Mont d'Urville, et donc du coup aussi ça vient impacter la vie des chercheurs, puisque par exemple en océanographie physique notamment, on ne pouvait plus accéder à nos zones d'études parce que il y avait tout ça, ça a donné la porte ouverte à ce qu'on appelle la débâcle de la mer de Ross. Donc au moment de la débâcle, la mer de Ross, qui est une grande baie à l'intérieur de l'Antarctique à l'est du Mont d'Urville, qui débâcle donc en été austral, qui était dérouté vers le nord par la pointe de cet iceberg, la langue glaciaire du Mertz. Et puis quand il n'y a plus cette pointe, toute cette quantité de glace est arrivée au niveau du Mont d'Urville et s'est posée là où nous on avait des instruments qu'on allait relever tous les ans, puisqu'on traquait une masse d'eau particulière, une masse d'eau dense justement, dont on avait constaté la diminution en épaisseur. Et pour revenir à votre question initiale, il y a aussi, c'est par en dessous aussi que les icebergs fondent, puisque la masse d'eau qu'ils peuvent rencontrer, enfin qui se retrouve au niveau de leur épaisseur, est entre guillemets chaude par rapport à l'autre, à la glace, à l'eau antarctique. C'est une eau très ancienne qui est formée en nord atlantique et qui circule tout autour de l'océan austral, que verra le polar pod certainement, l'eau circumpolaire de fond, et est à 0,5 degrés, là où l'eau environnante est à moins 1,8. Donc il y a un phénomène de fonte qui peut se passer par en dessous, apportant du coup de l'eau douce et dessalant la masse d'eau.
Jean-Louis Etienne.
Ce tour du monde là qu'on va faire, parce qu'on va faire le tour du monde, et c'est le seul endroit où l'océan fait le tour du monde. Ça va durer 2 ans. Il y a 2 grands domaines d'études qui vont être mis en œuvre. Échange atmosphère-océan. Le climat, c'est une affaire de couple. C'est le couple entre l'atmosphère et l'océan. Et cet océan austral qui entoure l'Antarctique, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète.
C'est là où c'est à la fois une pompe et un puits de carbone.
Alors il y a deux, si vous voulez, il y a les eaux froides, le CO2 se dissout beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Donc c'est une pompe physique de dissolution, et cette dissolution du CO2 effectivement acidifie l'océan, ce qu'on venait d'évoquer. Deuxièmement, une des performances du Polar Pod, c'est que à 80 mètres sous l'eau, vous avez le silence. Et donc on va mettre des hydrophones et on va faire un inventaire de faune par acoustique. Et l'acoustique, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire marcher le jour, la nuit, l'été, l'hiver, quand il y a du brouillard ou pas, alors que souvent les inventaires sont plus complexes que ça. Donc ça, c'est une des deux spécialités de ce navire, la capacité à mesurer avec précision la quantité de CO2 qui va être absorbée, parce que c'est un navire qui est très stable, et l'acoustique que je viens d'évoquer.
Et puis il va y avoir des instruments embarqués aussi, des petits instruments que vous allez pouvoir lâcher dans l'océan.
Alors, les instruments, c'est un arbre de Noël d'instruments. Il y a 52 institutions, il y a 12 pays. Mmh. Chacun arrive avec, il y a des lidars, il y a des... C'est un arbre de Noël gigantesque qui va être mis à l'œuvre par les 4 ingénieurs, techniciens et scientifiques, qui se relaieront tous les 2 mois, puisque le tour devrait durer 2 ans, mais il y aura des relèves d'équipage tous les 2 mois.
Mmh. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, et ce que vous pourriez nous expliquer pour conclure, c'est que, comme vient de l'expliquer Jean-Louis Etienne, l'océan Austral est une très importante pompe à gaz carbonique, mais c'est aussi une source de gaz carbonique. Comment est-ce qu'on explique ça, Emmanuel ? En quelques minutes.
Alors, d'abord, en quelques minutes, c'est difficile, d'autant plus que c'est pas mon domaine du tout. Mais en fait, il faut voir qu'il y a une forme de zonage, en fait, dans l'océan Austral, donc avec un système de front et des endroits où il y a des zones où les masses d'eau vont subduquer, passer les unes sous les autres, d'autres qui, au contraire, vont aller en surface. Et donc, du coup, ça fait des situations différentes entre, on va dire, le sud, ce qu'on appelle la zone subtropicale, tropicale, donc la zone du front polaire, et au sud encore au niveau de la divergence antarctique, mais sans du coup ça fait une modulation des situations.
D'accord.
Et je voulais rajouter une chose, c'est que non seulement c'est l'effet fondamental aussi de l'océan Austral, c'est que c'est un vrai échangeur thermique sur la planète. Et pour moi, c'est vraiment l'image qu'il y a un seul océan, c'est celui qui permet de communiquer avec tous les océans, et je parlerai plutôt de mer Atlantique, mer Pacifique et mer Indienne, et toutes ces masses d'eau vont à un moment donné forcément se retrouver au niveau du courant circumpolaire antarctique de l'océan Austral, que va donc pouvoir échantillonner le Polar Pod, c'est bien compris, avec une instrumentation qui a énormément évolué ces 20 dernières années et qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant.
Et c'est comme cette précision. Comme par exemple, un exemple.
Et bien des mesures de conductivité, de taux de sel de la mer qui n'étaient pas de qualité assez précise pour pouvoir faire de la physique, mais qui étaient quand même embarquées par les éléphants de mer ou les phoques de Weddell. Par contre, déployées d'un bateau, on pouvait le faire en continu, mais il fallait effectivement un navire océanographique. Et on est à nouveau, on est dans une zone où ce n'est pas une route maritime. Donc il n'y a pas de raison d'y aller, sauf si on veut vraiment aller échantillonner quelque chose.
Et pour conclure, Jean-Louis Etienne, ce Polar Pod, on en est où? Quelles sont les prochaines étapes? Quand est-ce qu'il
construction pourra... 2018, départ de 2019, et le tour devrait s'échelonner sur 2 ans, 2019-2021. Donc 2 ans avec ce que j'ai dit tout à l'heure, des relèves d'équipage à peu près tous les 2 mois, 2 mois et demi.
Eh bien, merci. On guettera ça d'un œil attentif. C'est une expérience absolument passionnante. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne. Je rappelle que vous venez de publier Inventer sa vie aux éditions du Passeur. Mille merci également à Emmanuel Sultan, océanographe au Muséum d'Histoire Naturelle, de nous avoir permis de comprendre un peu mieux toutes ces conséquences du réchauffement climatique sur le pôle Nord et le pôle Sud. Et merci évidemment à toute l'équipe de la méthode scientifique, Léo Quentin, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Ève Etienne, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Jacques Hubert, au droit d'auteur Sophie Saliomari. Vous pouvez retrouver la méthode scientifique comme toutes les autres émissions depuis le début de l'année sur le site de franceculture.fr. Et demain, changement de décor, on enfile nos lunettes et on plonge dans un autre monde, un monde en plein défrichage, celui de la réalité virtuelle et de ses applications scientifiques. Dans un instant, on continue de parcourir les frontières sous LSD, la série documentaire de Perrine Carvran. Et puis nous, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.